Dans le tempo, épisode 5. Ouais, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait?
Non, non, c'est t'as
fait troll comme
ça, oui.
Ah, je me fais troller même mon introduction. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Je reprends.
Vas-y.
Dans le tempo, épisode 5. C'est parti. Vous êtes bien dans le tempo, le podcast des passionnés de musique. C'est fait par des passionnés pour des passionnés. Vous le savez, je suis chaque mois avec mon gars Michel, l'homme que l'on appelle Chronomusique. Comment ça va, Mich?
Ça va et toi? Ça se passe un peu?
Bah oui, très bien, très bien. Mais ça, non seulement ça va bien, mais en plus, j'ai qu'une envie, c'est de te rejoindre sur le Twitch game. Là, j'ai vu que tu t'es lancé.
Ah là, ça y est, hein, c'est Spotify, ça y est. Twitch, TikTok, fromage.
Tous les terrains.
La squeezification est totale.
La squeezification, mon gars, est effectuée à 100%. Bientôt l'album.
Écoute, en tout cas, j'ai bien envie de te rejoindre, de me lancer moi aussi dans le stream. Là. Voilà. Je sais que tout le monde fait un peu ça en ce moment, mais j'ai envie de discuter c'est musique avec notre communauté en live. Ah non, c'est même pas pour l'argent.
Mais c'est que pour l'argent.
Mais non.
Plus que ça rapporte.
C'est pour l'argent. C'est pour l'argent.
Vous l'avez entendu, évidemment, on est avec un invité. Pour ce cinquième épisode, on a voulu se pencher sur une scène musicale à part, très peu représentée en France. Une scène qui a la croisée de la musique occidentale et asiatique, japonaise. Une scène geek, influencée par la pop culture et en particulier les génériques d'animés japonais. Alors on pourrait parler de J-rock à la française, de pop metal japonisant, je sais pas. On va justement en discuter avec notre invité. Il s'agit de Tai Wang. Merci Tai d'être avec nous.
Bah,
comment ça va
beaucoup.
T'es content d'être là?
Ben oui, c'est un vrai plaisir comme... Comme je vous disais, moi, je suivais votre émission. J'ai fait, putain, c'est trop cool. Moi, j'ai envie de discuter de trucs. Moi, j'appelle ça des trucs de nerd de la musique, tu vois, parce que quand j'en parle avec juste mon public, là, 90%, ils sont largués. 90%, 99%, ils sont largués, ils s'en foutent, tu vois. Et donc, du coup, mais pourtant, c'est des sujets que j'adore. Moi, j'y pense tous les jours. Je parle de ça tout seul, limite.
Mais écoute, tu as parfaitement ta place ici. On adore parler de musique, rentrer dans le fond des choses, etc. Michel, est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement qui est Tai, qu'est-ce qu'il fait?
Bien sûr. Alors Tai, on est d'accord, tu es musicien et producteur. Tu es connu pour ton groupe et ta chaîne YouTube qui porte le même nom, hein, je pense, Starisky.
Starisky.
Starisky, pardon.
Oh, la prononciation.
Bien joué, Michel.
Je vais commencer. Non, mais ok, Starisky. Starisky, parce qu'il y a deux R.
Il y a deux R.
Starisky. Ok. Pour lequel tu composes tout. Oui. Donc, vous avez déjà sorti plusieurs albums, vous faites des concerts, notamment dans les conventions, dans les festivals autour du Japon, de la culture geek en général.
Mais
voilà, là, ici, dans la période du Covid, on imagine que c'est compliqué. Et donc musicalement, tu es très influencé par toute cette vibe culture geek, animé, etc. Et voilà, je pense que pour la majorité des gens qui vont débarquer ici et qui te connaissent déjà, ils te connaissent aussi. Enfin, en tout cas, moi, je suis rentré par là. C'est tes activités sur le web avec tes défis musicaux, les morceaux qui s'écoutent à l'envers, les morceaux que tu superposes l'un sur l'autre, etc. Dans un gros délire, comme tu dis, de nerd. Hein,
ouais, clairement. J'essaye d'amener ça aussi pour le grand public tant que possible, quoi.
T'as aussi collaboré avec Squeezie, le générique de la série Noob. Je pense que t'as travaillé avec le joueur du grenier, etc. aussi. Donc t'es un petit peu un des compositeurs officiels du Future Game, un de mes concurrents.
Complètement.
et en parallèle, t'es compositeur aussi sur mesure. Tu fais des commandes, tu composes, tu mixes, etc.
Donc là, cet homme fait plein de choses.
Le tour de tes casquettes principales, si t'as des choses que tu veux ajouter, n'hésite pas.
Non, bah, je pense que c'est très très bon. C'est très exhaustif. Pour moi. Très bien.
En fait, on trouvait intéressant de t'inviter, Tai, parce que t'évolues un peu dans un univers musical parallèle, d'une certaine manière. Et c'est notamment incarné par le fait que toi, les concerts, pour toi et ton groupe, bah, c'est surtout dans des conventions geeks, entre guillemets. Surtout qu'on connaît beaucoup la K-pop, qui a une résonance particulière ces derniers temps. Donc, cette pop qui vient de Corée, ok. Mais il y a aussi des scènes J-pop et J-rock, donc cette fois qui viennent du Japon, très importantes, qui sont anciennes et qui continuent encore aujourd'hui à avoir un public et surtout une communauté très fidèle, très impliquée. Et on voulait justement comprendre un peu, dans DLT, on est passionné comme ça par les scènes musicales de niche, mais en même temps très vivaces, très vivantes, il y a plein de choses qui se font.
Moi, j'en ai vraiment rien à foutre, hein.
En tout cas, on veut découvrir ça avec toi et on se disait que tu allais pouvoir être un peu un ambassadeur de tout ça. Et ce que je vous propose, c'est qu'on commence une toute première partie on va parler de J-rock, de J-pop, ouais, de l'export de la musique japonaise et évidemment de la musique que Tai fait. Tai, comment est-ce que tu en es venu à faire de la musique influencée par le Japon? Comment tu as découvert cette musique? Comment tu as commencé à en faire? Ouais, c'est quoi cette histoire?
Bah, je pense que ça se voit à ma tronche. Forcément, notre génération, elle a beaucoup été influencée par les animés, les mangas. Voilà, moi, pendant mon adolescence, je consommais beaucoup animés, mangas, tout ça. J'ai adoré. En fait, de base, moi, quand j'étais ado, j'écoutais beaucoup de rock et de metal, vraiment occidental. Et quand j'ai découvert ce que faisaient les Japonais, même sans être forcément rock, tu vois, même la pure J-pop, opening d'anime, genre shoujo avec des paillettes et des filles qui dansent et tout ça, bah j'ai trouvé ça super cool. Et c'était super intéressant musicalement. C'était une ambiance que je kiffais bien.
Par quel intermédiaire? Parce que tout le monde n'est pas forcément exposé au rock japonais, ouais, à la pop japonaise. C'est vraiment effectivement l'univers manga, animé qui t'a amené vers cette musique? Ou est-ce que c'était des recherches en parallèle?
Bah, de base, ouais. De base, c'était complètement les animés. Parce que tu sais, les animés, bah, t'as forcément le générique de l'animé qui est en japonais, très inspiré. Enfin, qui a de la musique japonaise, en fait, dans 90. Ouais, quasiment tous les génériques d'anime sont vraiment très caractéristiques de la J-pop, de la J-rock. Donc du coup, c'était vraiment une vibe très précise que j'aimais bien. Et d'abord, j'ai commencé en écoutant majoritairement les openings des animés que j'aimais bien, des trucs comme ça. Et puis après, dans un second temps, tu découvres qui sont les artistes derrière ces génériques, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre. Et voilà, tout simplement.
Michel, toi, ça te parle un peu, cette musique J-pop, J-rock, les génériques d'anime?
Je plug directement ce qu'on est en train de faire avec Malek. On a une série qui s'appelle « Et si je ne sais pas quoi était un animé ?» Donc, c'est une série où on adapte des objets de pop culture en opening d'anime. Moi, je fais la compo là-dessus et Malek chante. Et donc, voilà, il fait l'animation aussi. Donc, on a vraiment un petit opening. Donc, j'en fais. Et ouais, moi aussi, pareil, tu vois, je suis rentré un peu dans le délire avec, évidemment, les animés, les openings Naruto, Death Note, tu vois, genre Maximum The Hormone, quand c'est arrivé, ça m'a mis une balle, tu vois. Genre le gros mélange de gros métal avec des gros screams, et puis après, derrière les passages pop, tout happy comme ça, c'était incroyable. Et puis, c'est arrivé au moment où moi, j'ai commencé un peu la musique aussi, tu vois. Et clairement, pour moi, dans la musique populaire asiatique, il y a quelque chose qui est beaucoup plus technique, tu vois, en termes d'écriture. Genre que beaucoup de la pop, ou même du rock, ou du métal actuel, etc., ont des codes, en fait, beaucoup plus restreints. Et sinon, j'ai l'impression que c'est une histoire de complexe, tu vois, que... en Occident, on a peur de paraître un peu trop vite kitschouille ou des trucs comme ça. Ouais. Et tu sens qu'en Asie, ça s'en bat les couilles. Et il y a une fraîcheur dans ce truc-là. Et ils se permettent aussi des trucs genre... je réécoutais hier des morceaux de l'Arc-en-Ciel, tu vois. Donc, ceux qui ont fait évidemment l'opening de GTO, Driver's High. Et ils ont un morceau aussi incroyable qui s'appelle Fourth Avenue Café. Et ce morceau, je le trouve incroyable. T'as des phrases archi longues, genre 8 mesures. Et puis ça se répète, et puis après t'as un bridge, ouais, et puis quand tu crois que le bridge il est fini, ça revient à un couplet, un truc comme ça. Pas une ambiance qui est cohérente, mais structurellement, c'est des trucs qui sont beaucoup plus riches en fait que ce que tu peux retrouver dans la majorité de la musique occidentale, je trouve.
Ce que je vous propose, c'est on étendra un tout petit peu après, enfin plus généralement hors animé, déjà dans un premier temps, parce que c'est le premier truc, et moi j'avoue que aussi c'est comme ça que j'ai découvert cette musique, c'est à travers les génériques, donc des dessins animés japonais. Est-ce qu'il y a qu'est-ce qui caractériserait cette musique justement, Michel, tu as commencé à en parler. Est-ce que c'est des sonorités, des manières de composer, qu'est-ce qui fait que c'est différent de ce que du générique d'un dessin animé francophone par exemple?
Bah, je vais laisser Tai répondre, c'est notre invité quand même.
Bah, je pense, voilà, déjà Michel, t'as très bien démarré le truc. En fait,
je faisais juste semblant de parler.
tu fais de la langue de bois, on connaît. Non, en fait, ouais, typiquement, je trouve que les Asiatiques sont vraiment sur une esthétique qui est plus proche de ce qu'on avait en Occident dans les années 70-80, c'est-à-dire avec des structures assez longues où il y a vraiment couplet, pré-refrain, refrain, bridge, solo, machin. Donc ça ressemble au groupe de prog des années 70, sauf que eux ils te foutent ça dans la pop. Et la deuxième chose qui est très différente avec les Japonais, c'est que de par leur langue qui est phonétiquement beaucoup plus simple à prononcer que le français ou l'anglais, ils se dirigent naturellement vers des phrasés très rapides avec des changements mélodiques très 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 gros, des gros intervalles. Ça fait vraiment tout 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 tout. Ils vont très vite, ils font des gros intervalles. Et c'est la langue quelque part qui inspire ce type de mélodie en fait. Et ça c'est vraiment caractéristique pour moi du genre. Maintenant c'est vrai que dans l'écriture on a quelque chose de fondamentalement en termes de vraiment vraiment structure, harmonie, mélodie, quelque chose qui ressemble beaucoup à du jazz ou à du jazz fusion. Après, moi je pense que en Occident, on s'est depuis disons 30-40 ans, s'est dirigé de plus en plus vers une richesse de sound design, de production, voilà, d'arrangement, là où eux, ils sont très souvent encore dans des formations instrumentales assez traditionnelles, avec des guitares, des claviers, des voix, des cuivres, des violons.
Puis t'as aussi tout ce truc dans l'écriture de la voix, en tout cas l'écriture de la mélodie de la voix, tu vois, nous, en Occident, on est vraiment dans une écriture qui tient beaucoup plus du riff, tu vois. Ouais. Genre, c'est des petits passages mélodiques répétés avec des petites variations, etc. Et ils font des phrases mélodiques vraiment très longues, tu vois, avec une sensation de conclusion de la phrase au bout des fois de 16 mesures.
Oui,
tu vois.
Ça change très beaucoup. Ça change très souvent.
Ouais. Ça change de ouf. Et c'est, c'est des mélodies qui, grammaticalement, pour le dire comme ça, tu vois, sont beaucoup plus longues et beaucoup plus développées, quoi, tu vois.
Mais du coup, c'est un downside.
Nous, on a une écriture beaucoup plus motivique.
Ouais, c'est un downside assez gros, c'est que pour un non-initié, c'est très dur d'avoir un truc assez catchy, vu qu'en fait, il faut un temps d'attention quelque part un peu plus long pour avoir la phrase dans son intégralité. En plus, elle se répète peu souvent. Et alors, il pousse même le vice beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'au Japon, c'est extrêmement fréquent d'avoir aucun refrain identique. Ouais. C'est-à-dire que les refrains sont les mêmes mélodiquement, mais les paroles changent à chaque refrain. Donc du coup, pour les retenir, c'est encore pire. Et je sais pas pourquoi, mais ils font très souvent ce genre de choses.
Ouais, de ouf.
Et je pense que c'est lié aussi en partie à la langue, qui est que de par sa structure, il faut des phrases avec énormément plus de syllabes pour signifier la même chose qu'en anglais ou en français. On a besoin des fois de très peu de syllabes pour donner un sens à notre phrase. Alors qu'eux, ils ont besoin d'énormément de syllabes pour dire quelque chose.
C'est marrant parce que, d'une part, c'est très intéressant la discussion là. Et puis... j'imagine quand même que tout ça, c'est pas figé. C'est-à-dire qu'il y a une évolution des modes, etc. aussi. Moi, je pense à, évidemment, comment j'ai découvert les animés, c'est plutôt dans les années, les productions des années 80, 90. Je pense qu'on a tous été marqués par le Pegasus Fantasy de Saint Seiya, le générique, qui était très hard FM, en fait, à l'époque. Beaucoup plus hard rock. Puis il y a eu petit à petit une évolution où j'ai l'impression que le pop rock a un peu plus pris le dessus. Effectivement, on parlait de l'arc-en-ciel, il pourrait y avoir Asian Kung Fu Generation, des groupes comme ça. Le métal aussi, qui lui découle un peu plus du hard rock, mais c'est devenu beaucoup plus métal. T'as parlé de l'opening de Death Note tout à l'heure. Effectivement, c'est complètement ça. Et puis, en parallèle, donc cette scène très pop, très rock, et puis il y a le côté jazzy qui a déjà été un peu cité. On pense évidemment à Cowboy Bebop, ou même encore plus ancien, la BO, l'OST, le Cobra, qui était absolument incroyable. Vous connaissez un peu cette OST ou pas?
Je vois de très loin, mais
trop vaguement,
pas suffisamment. Ça quoi, date. Là, je peux pas m'exprimer là-dessus.
Franchement, tu écoutes là l'OST, c'est un plaisir. Ouais. C'était composé de manière absolument incroyable. Et j'imagine que c'était composé au Japon, parce que c'est une production japonaise, peut-être franco-japonaise, mais en tout cas japonaise.
Même dans l'écriture de ce qui va paraître pop en termes de timbre, par exemple, ou de pop-rock, etc. Tu vois, genre le J-rock typique, l'opening d'anime, etc. T'as déjà beaucoup de similitudes avec, enfin, beaucoup d'emprunts à l'harmonie jazz. Je pense à des trucs comme genre prendre le premier degré, enfin, tu vois, genre, t'es dans une tonalité, et puis à la toute fin, ils te renvoient, genre, en général, t'es dans une tonalité mineure, et puis à la toute fin, ils te font une espèce de sus 4 qui te renvoie vers la tonalité majeure. Et je sais pas, ça donne une sensation d'ouverture comme ça, et c'est un truc, celui-là, il est assez typique.
Oui.
De partir vers le majeur en passant par le sus 4, des trucs comme ça, et ce sont des trucs que dans la majorité de la musique occidentale, ça va paraître soit kitschouille, soit en général, ça va être fort kitschouille quand même, ou alors assumé comme tel, mais ça va être des trucs qui se revendiquent un peu de l'esthétique jazz, soul et tout ça, tu vois.
Mais alors justement, parlons-en, c'est que autant un opening, c'est comme le générique d'une série. En fait, tu es tellement confronté régulièrement comme ça, ça ouvre chaque épisode, etc., ouais. que tu as un rapport en fait à cette musique qui est modifiée forcément.
Bien sûr.
Et parce que tu l'associes au plaisir aussi du visionnage après du truc, etc. Et il y a des musiques que j'adore. Je sais pas, je peux penser à l'opening d'Evangelion. Je l'adore et pourtant ça me viendrait jamais à l'idée de l'écouter comme ça à côté dans une session où je m'écoute du son comme ça. Et justement, il y a ce côté très parfois très naïf, parfois très à la limite du trop sirupeux, mielleux, trop... Moi, des fois, par exemple, j'ai du mal avec ces aspects-là de ces musiques et de la production japonaise, d'ailleurs. Mais on peut même le retrouver dans le jeu vidéo, dans le traitement, oui. dans les RPG japonais, des sentiments, etc. Et c'est vrai que vous avez ce même sentiment, pas parfois que ça en fait un peu trop. Et moi, c'est certainement mon regard occidental, mais j'ai du mal parfois avec ça.
D'accord, mais c'est super intéressant que tu dis ça parce que je pense que c'est en effet le sentiment de beaucoup d'Occidentaux vis-à-vis de la de tout ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en fait finalement il y a peut-être, je sais pas s'il y a une causalité, mais il y a une corrélation en tout cas entre quand on voit le public des conventions, ceux qui consomment vraiment les animés, tout ça, et donc qui aiment la J-pop vraiment, j'ai presque envie de dire au premier degré, contrairement à une consommation qui serait presque un peu plus, comme tu l'as dit, parce qu'on regarde l'animé ou ça ne viendrait pas à l'idée de l'avoir dans ton baladeur, tu vois. Et ben ceux qui consomment vraiment ça, dont j'en fais partie complètement. C'est vrai qu'on a on a peut-être été plus habitué, c'est peut-être générationnel, j'en sais rien, ou de ce qu'on a peut-être aussi, ça dépend comme de quoi on a été nourri pendant notre adolescence. Moi j'ai regardé beaucoup ça, donc oui, évidemment c'est vrai qu'il y a un côté assez edgy, un côté assez naïf en même temps, assez enfantin presque, mais moi je le vois pas du tout comme quelque chose de péjoratif, dans la mesure où j'ai cette idée que pour moi, vouloir être mature ou adulte en musique ou en art, c'est un peu contre-productif pour moi. J'ai souvent ce côté un peu à l'envers qui est que tout ce qui fait trop mature et vraiment, moi c'est adulte, c'est regarde comment c'est adulte et mature, je trouve ça un peu ridicule. Alors que quelqu'un qui assume le côté, moi c'est naïf, c'est enfantin, c'est joyeux, c'est cool, et moi je dis voilà, en fait pour moi être mature c'est assumer qu'on aime les trucs de gosse, tu vois.
C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est une discussion presque en dehors de la musique, mais un rapport à la pop culture qui évolue, parce qu'en fait les générations qui ont grandi avec l'émergence de la pop culture qui était associée quand même à l'adolescence beaucoup et à l'enfance et à l'adolescence sont devenues des adultes,
ouais.
Ils sont obligés forcément un peu, notamment avec le regard externe de la société, de reconsidérer leur rapport d'adolescent à cette pop culture qui continue en fait à les nourrir même en tant qu'adultes. Et on le voit bien dans les, je sais pas, ça peut être les productions de super-héros au cinéma, etc., qu'il y a toujours cette tension entre est-ce qu'on joue sur le fun, le côté adolescent assumé, enfantin, etc., ou est-ce qu'à l'inverse, je fais The Dark Knight et c'est ultra
ça.
Mature, ultra ça sérieux.
Devient, ça devient très sérieux, très adulte.
Et il y a un peu cette même tension dans le domaine musical, d'une certaine manière.
Je pense, ouais, potentiellement. Après, c'est vrai qu'en Occident, on considère vraiment, à mon sens, la musique comme quelque chose de très sérieux. Alors, à part ceux qui font vraiment de l'humour en musique, hein, on considère la musique comme quelque chose de vraiment très sérieux. On rigole pas, c'est sérieux, c'est de l'art, c'est profond, c'est dense, ou alors ça exprime quelque chose de d'important. Ou alors, même dans des trucs qui sont presque à la limite de la parodie, comme le gangsta rap ou quoi, il y a un côté vraiment très sérieux. Alors qu'au Japon, je pense que, ou en tout cas en Asie, ils se posent, c'est même pas que c'est pas sérieux, c'est qu'ils se posent même pas la question, en fait. C'est ce qu'a dit Michel quand il dit eux, ils en ont rien à foutre. Eux, ils en ont rien à foutre d'être ringardos. Ils ont pas vraiment le côté. Alors peut-être qu'ils l'ont socialement, sociétalement, j'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que d'un regard de pur occidental, j'ai le sentiment que la musique asiatique se prend beaucoup moins au sérieux. Et pourtant, elle aborde des choses qui sont tout à fait sérieuses, que ce soit dans les thématiques ou soit, comme on l'a dit, avec l'harmonie jazz, qui est quelque chose de. Voilà, c'est pas quelque chose de fondamentalement, c'est quelque chose de complexe, tu vois. On peut être sérieux sans se prendre au sérieux, j'ai presque envie de dire.
Oui, voilà. Il y a une mouvance qui a été assez largement acclamée, notamment dans le rap francophone, c'est la mouvance du rap belge, où justement, ça venait un peu, genre, ben, tu vois, toute proportion gardée, ramener un peu ce délire premier degré et demi, tu vois, que ouais. Moi, c'est pour ça que j'ai kiffé Kaba et Jean Jass. Il y a eu aussi Roméo Elvis, Lompal et tout ça, tu vois. Lumpal, il est pas belge, mais il y a Isha. Enfin, on a eu une vibe de rap belge qui s'est un peu essoufflée, mais qui venait un peu dépoussiérer le côté archi premier degré, gangsta rap, etc. T'as aussi les Suisses comme Dimé avec les Extreme Boys et tout ça. C'est fait sérieusement, mais c'est jamais c'est du rap divertissement, tu vois. Comme t'as Al Capote aussi, tu vois. Ça peut être pute, mais c'est du divertissement, tu vois ce que je veux dire.
Ouais, mais pour autant, comme ça. Là, il y a un petit côté second degré, je trouve, dans ce que tu es en train de parler. Là où chez les Asiatiques, c'est premier degré, c'est limite troisième degré. Tu vois, c'est pas premier degré et demi, c'est troisième degré. C'est-à-dire, c'est ok, c'est kitsch, mais on kiffe réellement. C'est pas, on fait pas ça pour rigoler, quoi.
Ouais, mais pour moi, ce que j'appelle le premier degré et demi, c'est un peu ce truc-là, tu vois, c'est le faire. En assumant le fait que ça puisse être kitsch pour autrui, mais le faire suffisamment sérieusement pour qu'on comprenne que toi tu kiffes, tu vois.
Ouais.
Donc, je fais un rapprochement dans ce sens-là. Et pour revenir sur le côté un peu extrême qu'il peut y avoir dans cette musique-là, tu vois, genre pousser les curseurs au maximum quand c'est super joyeux, c'est super joyeux.
C'est ça, ouais.
Quand c'est triste,
c'est super triste. Ouais.
Et je parlais avec un producteur. Qui a pas mal d'expérience et il me parlait de toute nouvelle vibe des TikTok et des musiques qui sont faites exprès pour TikTok et tout ça, et il disait que lui il retrouvait ce truc là-dedans, qui disait que dans les tracks qu'il perd sur TikTok, c'est des tracks qui sont presque caricaturales, tellement pareil, tu vois, tous les curseurs sont poussés au maximum, et en tout cas ça me pose la question de l'avènement de la K-pop en Occident, tu vois. Qui arrive avec ce truc-là, est-ce qu'il n'y a pas un parallèle à faire? Est-ce qu'il n'y a pas un truc générationnel qui est en train de se passer là maintenant dans la musique et dans l'utilisation qu'on a de la musique, parce que c'est rare maintenant de croiser quelqu'un qui ne soit pas un créateur de contenu, tu vois, donc qui n'a pas besoin de musique, genre tout le monde a un Instagram, tout le monde a une chaîne TikTok, tout le monde a une chaîne YouTube, tout le monde Twitch, tu vois, et donc le rapport à la musique il évolue aussi parce que les gens ils ne font pas que la consommer, ils en font des trucs aussi et la vibe TikTok, justement, un peu ironique, un peu dans l'extrême, dans la caricature et tout ça, ça vient peut-être aussi nourrir ce truc-là. En tout cas, j'ai l'impression que ces trucs, c'est des mouvements qui arrivent un peu conjointement, tu vois. La musique asiatique qui se ramène en Occident et en même temps un esprit qui a l'air de s'être fait approprier par les jeunes, un esprit beaucoup plus extrême, quoi, tu vois. Je sais pas comment dire.
J'ai pas vraiment d'avis là-dessus.
Pas...
Je pense que c'est deux choses qui ont un lien, mais qui sont pas vraiment directes, quoi. Je pense que c'est vraiment la jeunesse qui s'exprime à travers à la fois des influences de plus en plus asiatiques, parce que il y a eu l'essor des mangas et des animés, il y a eu l'essor de la K-pop, et à la fois avec les réseaux sociaux et le fait que TikTok est tout aillé de plus en plus vite, quoi.
Ouais.
Et justement, les gars, est-ce que de par votre expérience que vous observez, notamment toi, Tai, qui connais bien cette communauté attirée par la musique japonaise, est-ce qu'il y a souvent est-ce que ça se transvase, entre guillemets, de découvrir la musique à travers les animés, d'apprécier cette musique, d'en écouter, même de la faire, parce que c'est ton cas, toi, je pense que tu revendiques beaucoup le fait de presque de faire des musiques d'animés, quoi. Est-ce que ça pousse à s'ouvrir à la musique japonaise de manière générale? Parce que j'imagine qu'on ne peut pas la réduire à la musique d'anime,
non,
à la musique japonaise.
Clairement. Mais après, ce qui est bien, c'est que, comme je l'ai dit, moi, je trouve sincèrement que, contrairement à, par exemple, en France, tu vois, tu penses au générique de dessins animés français, c'est incomparable, ne serait-ce qu'à la variété française, même pour l'époque, tu vois. Ce qui passait à la radio, c'était pas du tout la même chose que les productions qu'il y avait en générique des dessins animés. Au Japon, c'est beaucoup plus similaire. C'est-à-dire qu'ils te mettent des vraies chansons pour eux. Ils te mettent ce qu'ils estiment être des vraies chansons. Ce ne sont pas des chansons faites exprès pour les enfants. Parce que aussi, il faut voir un truc, c'est que je ne sais pas dans quelle mesure au Japon ça a été pensé comme ça, mais disons que les fans en Occident d'anime pensent sincèrement que les dessins animés, ce n'est pas forcément que pour les enfants, en fait. Il faut arrêter avec cette image, les dessins animés, c'est pour les enfants. Et donc, du coup, on peut complètement apprécier un dessin animé, même destiné aux enfants à la base, au premier degré. On peut complètement apprécier un générique de dessin animé au premier degré. Et au Japon, clairement, je vois très peu de différence stylistique entre ce qu'on va mettre en générique et ce qu'ils vont passer en radio ou ce qu'ils vont promouvoir dans les circuits, disons, de l'industrie pure et dure d'ailleurs. C'est même tellement la même chose qu'il y a des vrais partenariats entre les maisons de disques japonaises et les studios de production d'animés, justement parce que avoir son générique Avoir une chanson en générique d'un animé connu, c'est booster ses ventes, c'est une promotion de dingue pour l'artiste. Ce serait un peu l'équivalent, si tu veux, d'un insert song dans une série américaine sur Netflix. Mmh. En général, c'est vrai que ça booste pas mal les artistes d'avoir un insert song sur Netflix. Ouais. Sauf que bah, pour eux, c'est les animés.
Ou une musique sur une pub, évidemment. Complètement. Ça peut aussi complètement propulser un son. Ouais.
Sauf que pour eux, comme les animés, c'est pas que pour les enfants. D'ailleurs, ça se retrouve assez bien dans leur manière de trier leurs animés. On pense shonen, shoujo, seinen, josei, tout ça. Donc, il y a vraiment toute une partie de la production animé manga qui est destinée aux adultes. Et je parle pas forcément des trucs érotiques. Je parle vraiment même dans les productions tout public. Voilà, eux, ils consommeraient des dessins animés comme nous, on consommerait des séries sur Netflix, quoi. Même adultes, tout ça. Et donc, du coup, la musique n'est pas spécialement destinée aux enfants, contrairement où, en Occident, quand on fait un générique de dessin animé, on pense, c'est pour les enfants, c'est Bernard Minet, ce genre de choses, quoi.
Même si, alors, c'est vrai que je regarde moins les dessins animés d'aujourd'hui, donc je sais pas trop ce qui se fait en générique. Mais il y a des génériques de séries animées des années 70-80, toutes les productions, je sais pas si vous vous rappelez, Jean Chalopin, c'était tout ce qu'il y a eu, Ulysse 31, les Mystérieuses Cités d'Or, etc. C'était un même compositeur français qui était derrière pour tous les openings français, qui était Chouki Lévy, qui en a composé plein. Il a fait les Mini-Pousses aussi, les Entrechats, enfin tout ce genre de trucs, quoi. Et je trouve que c'est d'excellents génériques
bien
à chaque
sûr.
Fois.
Ah là, mais c'est sans enlever aucunement la qualité musicale de ces génériques, hein, complètement, je suis complètement d'accord. Maintenant, c'est vrai que c'est plus dans la manière dont c'est perçu par le public. C'est comme c'est pour les enfants, la musique aussi devant, elle est pour les enfants, les paroles, elles sont peut-être orientées pour les enfants. Oui, et malheureusement, j'ai le sentiment, alors moi, je n'aime pas ça, mais il y a beaucoup de gens qui sont encore dans cette démarche qui est, si c'est pour les enfants, je ne peux pas me permettre d'aimer ça, c'est ridicule, en fait. Alors qu'on ne devrait même pas se poser la question, finalement.
Dis-moi, il y a un autre point quand même qu'il faut aborder autour de tout ça, c'est que c'est ta pratique. C'est-à-dire que tu composes, vous enregistrez avec ton groupe des morceaux comme ça qui s'inspirent notamment de musique, de générique, d'animé. Comment on transpose ça? Parce que j'imagine que tu as une histoire aussi, entre guillemets, une culture française
bien
aussi.
Sûr, oui,
donc que tu réinterprètes forcément ça avec tes codes, avec ta vision aussi un peu exotique de l'extérieur, du Japon, même si tu es peut-être allé, je sais pas. Mais enfin,
non,
c'est pas la même chose, j'imagine, de faire un morceau quand on est japonais au Japon et puis en tant que français où on reprend ces codes-là. Comment ça se passe? Comment ça se passe au niveau de la langue? Parce que parfois tu fais des morceaux en japonais, parfois en français. Mmh. Parle-nous un peu de ça.
C'est très intéressant. Donc déjà, en fait, moi je suis autodidacte, donc. Même si j'ai écouté beaucoup de choses occidentales, moi j'étais très influencé par le métal, par le métal progressif, le métal symphonique. De manière générale, j'aimais les choses qui étaient assez denses en termes d'arrangement. Donc c'est pour ça que je parle du prog, je parle du sympho et tout ça, du métal naturellement. Et du coup, la J-pop, j'ai retrouvé ce côté-là aussi, le côté de la densité des arrangements, même si c'est dans un style dans une ambiance complètement différente. Donc du coup, moi je fais des productions qui ont des arrangements très denses. D'ailleurs, je suis assez connu et même critiqué pour ça, c'est-à-dire il y a trop de sons en même temps, on n'entend pas tout, c'est très dense, mais j'aime bien ça, j'assume le fait que des fois il y a des choses que je mette et que je sais pertinemment qu'on n'en entend que la moitié, parce que moi je trouve qu'on a cette philosophie, tu sais, quand on apprend le mixage, que tout doit être très clair, le but c'est d'entendre tous les instruments, et moi j'ai le sentiment que dans certains genres, dont font partie probablement le symphonique, le métal symphonique ou le... ou la musique japonaise, on assume des fois de faire exprès, de mettre des trucs qui soient à moitié pas audibles. Et j'adore cette idée-là de, à la centième écoute, tu dis « putain, c'est quoi ce truc ?» Alors, j'avais pas remarqué à la première, quoi. La deuxième, c'est que tu parles des mélodies qui sont complexes et qui, du coup, à cause de la langue, peuvent mal se transposer. C'est aussi, du coup, quelque chose qui est assez... disons, les gens qui ne sont pas habitués à ça trouvent du coup que c'est extrêmement bizarre, puisque forcément, j'ai des mélodies qui sont très influencées Japon et qui sont souvent sur des paroles en français ou en anglais. Donc forcément, ce qui est attaqué, ça va être souvent « vous avez un mauvais accent anglais », ce qui est à moitié vrai aussi, mais ce qui est qui est exagéré en fait par le fait que les mélodies ne sont pas pensées en anglais, mais pensées presque en japonais, j'ai envie de dire. Et ensuite, tu cales des paroles anglaises dessus. Donc, du coup, c'est vrai que forcément, ça...
Qu'est-ce que ça change sur le phrasé, sur la rythmique est différente. Tu parlais aussi tout à l'heure de différence de tonalité, de changement d'un coup, comme ça.
Ouais. Bah, déjà, la vitesse. Donc, la vitesse fait que c'est plus complexe à prononcer, alors qu'en Occident, on est sur des choses souvent en moyenne plus lente, en tout cas au niveau de débit de parole. Alors évidemment, il y a le rap aussi où ça peut aller très vite, mais là on parle vraiment de chant pur et dur avec des mélodies. Les différences de les intervalles, alors ça c'est assez significatif. Si tu veux, dans, j'ai le sentiment qu'en Occident, déjà, on aime beaucoup les one-note mélodies. On aime beaucoup, presque des mélodies. En fait, j'ai le sentiment que en France, en Occident, pardon, on va souvent écrire les paroles et ensuite trouver la top line, tu vois. C'est peut-être pas forcément ce qui est fait, mais j'ai l'impression que c'est l'impression que ça donne. Parce que naturellement, quand tu composes une chanson, par exemple au piano, même si tu sais que ça va être pour de la voix, t'as pas envie de faire des one-note mélodies. Parce que ça fait... Tu dis non, mais c'est de la merde. Alors qu'en fait, il y aurait des paroles, ça passerait
mais
tranquille.
La plupart des gens, la plupart des top-liners, ils font pas ça au piano, je pense. Ils font ça à la voix.
C'est
ils
ça.
Se posent devant
ils
le micro.
Directement.
Et je pense qu'ils font du yaourt et ils reprennent des trucs qui marchent. Parce que
voilà.
Il y a aussi, en général, des top-liners, il y a un impératif économique derrière, tu vois. Donc, on travaille des hits. Tu vois, il y a peut-être pas le même délire artisanat, artiste que tu peux avoir, même si je pense que ils aiment bien faire de la bonne musique, mais je pense qu'ils aiment bien aussi faire des hits. Donc, enfin, c'est aussi deux manières d'approcher la musique qui sont assez différentes. Après, je suis assez d'accord.
Pour moi, il n'y a pas de jugement de valeur. Hein.
On est vraiment dans l'ère des one note mélodies. Il y en a que ça commence à saouler, hein, je pense. Mais c'est vrai que là, ici, sur ces dernières années, mais en tant que moi producteur et j'essaye de faire plein de styles de musique différents, Tu retournes très vite à des one-note mélodies, sinon tu sonnes kitschouille ou t'as l'impression de sonner comme dans les années 80 ou tu vois un truc comme ça. Enfin,
oui.
Si tu veux, c'est comme dans la musique de film, tu vois. Dans la musique de film, aujourd'hui, en gros, t'as des petits résistants qui continuent à faire des trucs un peu à la John Williams, Korn Gold, tous
ça.
Ces trucs-là.
Sinon, c'est le Hans Zimmer avec le pattern de percus.
Et si tu fais pas du Hans Zimmer, t'as l'impression que t'en fais des caisses. Tu vois ce que je veux dire? C'est une mode aussi, je pense. Et puis ça va se passer. Et puis on va revenir à des trucs où il va falloir faire des mélodies un peu plus longues. Et puis je pense juste c'est une question d'à quel point le public est encore réceptif à ce truc-là, quoi.
Oui. Mais c'est ça qui est finalement assez ironique, c'est que la complexité harmonique et mélodique, c'est perçu comme quelque chose de kitschouille, voire d'enfantin, alors que ça n'a pas de sens, dans l'absolu. Mais ouais, c'est culturel, quoi, complètement. Et du coup, au Japon ou en Asie, de manière générale, alors, quoique la K-pop, c'est un peu différent, parce que la K-pop, c'est vraiment volontairement très influencé par l'Amérique et l'Occident. Donc on retrouve un espèce de mélange de codes où on voit très bien qu'ils essayent vraiment de prendre les codes américains, de la pop américaine, mais en les faisant en coréen et en apportant peut-être le côté tous les trucs à l'extrême, comme disait Chrono, où vraiment ils font tout à donf, où t'as vraiment des structures un peu plus complexes, des arrangements denses, mais quand même des one-note mélodies, quand même du rap, quand même des trucs qui sont vraiment plus occidentaux pour le coup. Alors qu'au Japon, ça change évidemment, on peut pas tous les mettre dans le même paquet, mais de manière générale, ils sont encore, et c'est peut-être à cause de l'insularité du pays, j'en sais rien, c'est un pays qui s'ouvre pas beaucoup au reste du monde culturellement. En tout cas, ils ont eu cette image-là pendant des années. Et donc, du coup, culturellement aussi, ils sont très... là où, par exemple, un Français va écouter peut-être 50% de musique américaine ou internationale, un Japonais, souvent, il y a des stats, c'est beaucoup moins. C'est plus proche de 15-20% de musique internationale et beaucoup de trucs en japonais. Ils sont très fans de leur propre pays, en termes de culture, j'entends. Et du coup, peut-être que ce côté-là, ça fait qu'ils ont pas forcément, ils se sentent pas forcément influencés par la musique américaine, ou en tout cas pas par la pop occidentale, pas par les gros charts américains.
Et pour autant, dans J-rock, J-pop, il y a les mouvements rock et pop qui ne sont pas japonais à la base. Donc j'imagine qu'ils ont bien puisé cette inspiration. Est-ce que c'est avec le temps que ça s'est modifié comme ça? Je ne sais pas si tu connais un peu l'histoire, entre guillemets, de ces mouvements.
Je pense honnêtement plutôt que au départ, il y a eu, après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, il y a eu forcément toute l'époque où en gros ils étaient militarisés par les Américains. Donc forcément, il y a eu à ce moment-là une explosion culturelle au Japon. C'est là où ils ont commencé à se placer, parce qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, les Japonais c'était le Moyen-Âge hein, presque. Et donc là, il y a eu l'explosion de la technologie, il y a eu l'explosion culturelle. Et ils ont adoré toujours faire le mélange entre tradition et modernité. C'est souvent ce qu'on dit, hein, oh là là, le pays du soleil levant entre tradition et modernité. Alors que c'est vrai qu'en Occident, c'est soit l'un soit l'autre en général. On n'aime pas trop mélanger les deux. Eux, ils mélangent tout de base. Et à la base, il y avait l'Enka vers les années 60, où en gros, c'était vraiment les chants traditionnels, enfin, pas les chants traditionnels, mais le style de chant traditionnel japonais, mis sur des prods plutôt variettes, plutôt rock, plutôt presque très influencés de l'Amérique de l'époque. Donc vraiment, les années 70, avec les guitares, la batterie, les claviers, tout ça. Et ils ont gardé cette esthétique-là, c'est-à-dire que comme il y a eu l'insularité et tout ça, de par l'insularité culturelle du Japon, eux, ils ont fait évoluer ce son-là de manière différente. Nous, on est passé sur, oh, on en a marre des claviers cheapos et des guitares, on va passer sur du sound design, des trucs qui font de la dubstep et tout. Et eux, ils ont dit, bah non, nous, on aime bien les guitares, mais on va le faire, on va faire évoluer d'autres choses. C'est vrai que du coup, il y a un côté kitschouille aussi dans la production, parce que c'est vrai que les Japonais, quelque part, les Asiatiques de manière générale, à part les Coréens, sont assez, comment dire, en retard niveau purement prod, mix et ce genre de choses, même s'il y en a qui sont excellents. Hein. Mais je veux dire, dans la manière générale, on ressent ce côté années 70 qui tchouille dans leur prod standard, quoi. Donc, ça a évolué très différent. Eux, ils y voient vraiment des qualités différentes. Moi, j'y vois clairement des qualités qui sont très différentes. Et c'est vrai que c'est que depuis que je suis confronté à un public que je me rends compte que la J-pop ou tout ça, ça peut être perçu comme quelque chose d'enfantin, ou de naïf, ou de je ne sais pas quoi, ou de kitsch. Mais moi, je n'ai jamais trop ressenti comme ça, quoi. Moi, j'ai commencé, j'avais 12 ans, forcément, je ne me posais pas la question de qu'est-ce qui fait adulte et qu'est-ce qui ne le fait pas, quoi. Ça arrive plus tard, ce genre de truc. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas à quel âge exactement, mais moi, en l'occurrence, ça, je ne me suis pas posé cette question.
C'était par rapport à la langue, en fait. C'est, j'imagine que dans l'interprétation, évidemment, ça change les choses, mais il y a aussi le sens des mots et l'écriture en français. Ça, on ne l'a pas trop abordé. Est-ce que vous vous inspirez même d'une certaine manière des thématiques, des façons d'écrire des animés japonais lorsqu'ils sont traduits? Est-ce que vous écrivez d'une autre manière parce que le français, forcément...
Ouais.
Et puis en plus, il y a une exigence terrible en France vis-à-vis de la langue. Ouais, qu'est-ce que t'en penses?
Alors, pas du tout. Au niveau textuel, pas du tout. Alors déjà, moi, alors, je suis pas du tout un expert, hein, mais mon sentiment par rapport aux paroles japonaises, c'est qu'en fait, ils aiment énormément les allégories et les métaphores à rallonge, très, 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 très obscures, limite indéchiffrables. Ils sont très fans de ça, ils sont très fans des juxtapositions de concepts. Ça ressemble beaucoup aux haïkus, quelque part, en fait. Vous savez, les haïkus, c'est ces poèmes où souvent, comme t'as très peu le temps de dire quelque chose, t'es vraiment genre le bruit de l'eau, les machins. Enfin, t'es que des phrases nominatives avec des concepts, et ensuite, c'est à toi d'interpréter l'émotion. Après, il faut savoir aussi que c'est très difficile de traduire des chansons japonaises avec la fidélité de la traduction, parce qu'en fait le problème c'est que les Japonais ils ont énormément de trucs qui sont contextuels dans leur langue, ils ont énormément de mots différents qui expriment des subtilités qu'on n'a pas dans les autres langues, notamment pour tout ce qui est onomatopée, pour tout ce qui est description des sentiments. Ils font des différences, ils font beaucoup de jeux de mots, mais pour eux les jeux de mots c'est pas forcément une blague, ça peut être quelque chose de stylistique, et ça c'est compliqué à comprendre pour un occidental. Donc il y a des trucs en tout cas difficiles à traduire. Et je ne me revendique pas, absolument pas de cette influence sur les textes, parce que du coup, nous, forcément, on est réceptif à ce qu'on comprend dans notre langue et ce qu'on a l'habitude dans notre langue. Donc, pour le coup, ouais, je pense que j'écris beaucoup plus comme un français ou un anglais quand on écrit en français ou en anglais. Simplement, c'est sur des mélodies différentes, ouais.
Michel, toi aussi, comme tu le disais, avec Malek notamment, vous faites aussi des openings comme ça, des génériques, toi tu composes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette démarche? Pareil, est-ce que tu reprends des codes? Est-ce que vraiment, dans ta manière de travailler, tu vois une différence par rapport à quand tu fais d'autres styles, tu vois?
Ouais, bah, c'est sûr que ça n'a rien à voir. Après, chaque morceau, je l'aborde toujours comme si c'était mon premier, mon cher Salman. Mais en vrai, donc moi déjà, les paroles, je m'en occupe pas. Les mélodies, je m'en occupe pas non plus. C'est Malek qui fait ça dans son coin. Moi, je m'occupe vraiment de la partie compo, mix, mastering. Et sur la compo, je fais des trucs archétypaux, tu vois. Je fais des trucs... en gros, moi, j'ai des refs. On va prendre... comment dire, le Game of Thrones, par exemple, tu vois, on a fait Game... si Game of Thrones était un animé, c'était vraiment un pur shonen, tu vois. Donc, j'ai vraiment repris les codes de l'opening du shonen avec une progression d'accords hyper typique, avec le petit lead à la guitare qui reprend le thème principal, un petit peu syncopé pour que ce soit dans ce style-là. Ouais. Mais je fais pas des trucs, ça reste quand même des trucs marrants.
C'est quasi une parodie, tu veux dire, un peu?
Ouais, voilà, c'est premier degré et demi pareil, tu vois, c'est genre, il y a un truc, ça a pas vocation à être archi crédible, tu vois, même si moi, pour la suite, j'aimerais me, tu vois, rentrer un petit peu plus dans ce truc-là, parce que je pense que là, ici, donc, on a produit 8 épisodes avec Malek, là, la diffusion a commencé le mois passé, donc là, dans une semaine, même pas, dans 5 jours, on en a un qui sort, et donc là, je pense qu'on commence à avoir fait le tour de la parodie musicalement. Mmh. Et donc, j'aimerais bien pousser le truc vers un truc qui soit un peu plus crédible. Mais pour l'instant, c'est plus un truc assez archétypal.
Ouais. La démarche est assez différente de celle de Starry Sky, quand même. Là,
ouais, ouais, quand même. Oui. Après, c'est clair que bah, du coup, il y a quand même des codes qui sont communs. Tu vois, harmoniquement, c'est sûr que tu peux pas sonner japonisant ça, en faisant du la fa do sol, quoi. Tu vois, ça va être très compliqué.
C'est ça. Donc, ouais.
Il y a des progressions d'accords typiques, il y a des timbres de guitare typiques, des rythmes de batterie typiques, et globalement c'est surtout une manière d'arranger le truc, je dirais, tu vois. Genre c'est beaucoup plus baroque, on va dire, dans l'intention, tu vois. Enfin, je sais pas comment. Enfin, en gros, chaque instrument, ouais, enfin, c'est chargé, tu vois. Genre une ligne de basse de J-Rock. Genre, ça dépend des morceaux, tu vois. Genre, Asian Kung Fu Génération, par exemple, ça va être à tendance un peu plus punk, donc ça va être plus simple, par exemple, une ligne de basse chez eux. Mais un truc à l'arc-en-ciel, genre, que ce soit la guitare, la basse, la batterie, en fait, c'est comme s'ils faisaient un peu un solo, chacun de leur côté, tu vois, et l'ensemble doit rester cohérent.
Inspiration très prog, finalement.
Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Il y a un côté comme ça où ça doit être... intéressant. Si tu mutes chaque piste, tu mets chaque piste en solo individuellement, ça doit rester intéressant.
Complètement.
Alors là, je réagis parce que autant moi, je compose pas du tout ces styles-là, donc je suis moins expert que vous, mais j'en ai quand même écouté. Mais je remarque, et d'ailleurs, c'est un truc valable, j'ai l'impression, de manière générale, dans la musique japonaise, en tout cas la production pop et rock que je connais, c'est qu'il y a une technicité aussi, au niveau de la maîtrise instrumentale notamment. Ouais. Je pense à toute la scène, alors là, on s'éloigne un peu de l'animé, mais toute la scène mat-rock japonaise, je la trouve absolument incroyable. Genre un groupe comme Lead, par exemple, c'est des trucs que j'écoute très très souvent, et j'ai globalement l'impression qu'il y a un rapport, y compris dans la production plus pop et rock dont on parlait, à la technicité, à la maîtrise instrumentale très important. Est-ce que vous observez ça aussi?
Ouais, complètement. J'irais presque qu'ils se branlent dessus, mais ils adorent la technicité. Ils sont très... En fait, ça fait un peu le cliché asiatique fan de maths, hein, concrètement. Mmh. Mais en fait, c'est vrai, ils ont un rapport au côté technique... beaucoup plus, c'est beaucoup plus populaire, disons. La personne lambda va avoir un rapport à la technique musicale beaucoup plus poussé qu'en Occident, où on s'en fout complètement, en fait.
Ça dépend des époques, ça, d'ailleurs.
La culture japonaise, tu vois, pour prendre vraiment position sur ce truc-là, mais en tout cas, c'est la sensation que ça me donne quand j'écoute aussi, tu vois. Genre, j'ai l'impression qu'il y a l'air d'avoir un rapport à la maîtrise de l'instrument qui est peut-être un peu plus poussé que chez nous. Et ce qui est bizarre, parce que ça me rappelle un peu ce que disait Tai au début sur l'idée de maturité, c'est que dans la musique populaire occidentale, si t'en fais trop, on peut te dire t'en fais trop, tu vois. Genre, et c'est un truc de débutant, tu manques de maturité. Quand t'arrives à maturité, t'es technique quand il faut être technique. C'est pas technique en permanence, tu vois. Et donc, il y a un côté qu'on peut juger un peu immature de ce truc-là avec notre prisme occidental, même si c'est le plus bridé de la bande qui dit ça, tu vois. mais on peut juger ça un peu immature, et c'est ce que disait Tai au début, c'est qu'il y a un côté... On peut assumer aussi cette immaturité-là, juste... si j'ai envie de me branler sur mon manche, je me branle sur mon manche, qu'est-ce que tu vas faire?
Je pense qu'il y a une différence, évidemment... culturelle et spécifique liée à une géographie, des pratiques, etc. Et puis aussi une temporalité, parce que en réalité, ce rapport à la technicité, à l'instrumentiste, etc., on l'a eu aussi il y a quelques années en arrière dans la musique occidentale. Donc, enfin, c'est juste peut-être qu'on n'est pas sur, il y a des phases et qu'on n'est pas tout à fait toujours synchronisé par rapport aux phases que traverse chaque pays, chaque production, etc., quoi.
Ouais, c'est sûr.
Ouais, c'est ça, c'est ce que je dis quand je dis qu'il s'inspire vraiment du côté groupe de rock.
Ouais, prog 70, etc.
Je parlais du prog, tout ça, ouais, c'est une esthétique qui leur plaît beaucoup. Mmh. Pas forcément dans les ambiances, mais dans le rapport à la guitare, à la technique, aux instruments, ouais, bien sûr, complètement. Même au fait que l'ambiance soit un peu kitsch, soit un peu... Ils aiment beaucoup aussi les chansons qui sont joyeuses. Alors que je remarque qu'en Occident, c'est de plus en plus rare d'avoir des chansons joyeuses en pop.
On est plus soit dans... Sans Pharrell.
Oui, mais encore, tu vois, quand c'est joyeux, je trouve que les seules chansons joyeuses qu'on a, c'est forcément soit avec un côté jazzy, assumé, un peu rétro, soit avec un côté ethnique, genre ça vient d'Afrique, ça vient de la soul, ça vient...
Il y a le funk et le disco, surtout.
Comme ça. La funk, la disco, c'est dansant. En fait, si c'est fun, c'est forcément dansant. Mais il n'y a pas joyeux non dansant. Alors qu'en Asie, c'est joyeux non dansant, pas de problème.
Même s'il y a des groupes qui ont su se démarquer là-dessus, bon, c'est pas des groupes actuels, hein, mais je pense qu'ils ont aussi être intéressants dans cette complexité entre joyeux, pas joyeux, notamment dans les paroles, c'est les Smiths. Le groupe britannique qui lui peut te dire des horreurs, des choses de personnes complètement déprimées avec un truc dans la composition et les mélodies extrêmement joyeux, pas forcément dansant d'ailleurs, parfois dansant, mais en tout cas il y a une forme un truc ensoleillé un peu qui ressort de la musique pour dire parfois des choses terribles d'ailleurs. Donc il y a aussi quand même quelques groupes comme ça qui arrivent à le faire, mais je suis assez d'accord que c'est moins marquant globalement dans notre production.
Ouais, en Occident. Complètement. Ben, ensoleillé, soleil levant, hein, c'est comme ça.
La transition est parfaite. Les gars, ce que je vous propose, c'est de passer à la deuxième partie de ce podcast. Michel, on aime bien discuter un peu du business model avec business model des artistes qu'on reçoit, les invités, parce que comment
si
en fait
c'est
les gens...
Pas pour parler d'argent, moi je parle pas.
Parce que la musique c'est bien, mais la thune c'est mieux.
Non, mais c'est surtout que... La manière dont on vit de ces activités, ça dit beaucoup de choses aussi, à la fois de notre société, de notre pratique. Et surtout, on remarque bien que souvent aujourd'hui, il faut s'illustrer dans plusieurs domaines pour arriver à en vivre, etc. Et toi, tu es complètement là-dedans parce que tu es à la fois sur Internet, à la fois en live, à la fois tu enregistres des albums. On va parler un peu de cette diversification qui est l'eau des artistes aujourd'hui. Ouais, Thaï, tu es influencé par la pop culture, en particulier la pop culture japonaise, on l'a vu, mais aussi beaucoup la culture web. Et d'ailleurs, en réalité, beaucoup de gens ont découvert les animés, ou en tout cas ont pu assouvir leur soif d'animé grâce au web. Donc, c'est un peu lié tout ça. J'imagine que tu gravitais dans un univers web. Pardon ?
J'ai dit, c'est deux choses qui sont assez proches, ouais. C'est-à-dire que en convention, on a souvent, même si elles sont de base, beaucoup, c'est Japan Expo, il y a Japon dans le mot, mais au final, tu retrouves beaucoup de comics, tu retrouves beaucoup de SF, tu retrouves beaucoup de délires, de geeks, d'internet, parce que finalement, il y a des similarités dans le public qui sont très très proches, ouais.
Et dans le cas des musiciens qui passent par le vecteur Internet, qui s'expriment sur Internet, on voit qu'il y en a certains qui mettent seulement leur musique à disposition sur Internet, d'autres qui font plutôt du contenu autour de la musique. Et toi, en l'occurrence, tu fais aussi du contenu autour de la musique, tu fais des vidéos. Pourquoi ? Comment ça arrivait ? Est-ce que d'ailleurs, c'était ta première envie ? Est-ce que c'était plutôt un support pour faire des morceaux derrière ? Enfin, comment ça s'est passé, ça ?
Alors, oui, tout à fait. En fait, moi, de base, donc, je me considère avant tout comme un musicien, un compositeur, producteur, mais du coup, quand j'étais ado et que je voulais faire mon trou là-dedans, j'ai beaucoup gravité dans le monde de la musique, disons, traditionnelle, c'est-à-dire traditionnelle, de la musique habituelle, quoi. Genre, je tournais dans les bars, j'essayais de démarcher les radios, je jouais dans les tremplins. Donc vraiment, tout le côté scène, beaucoup, tout le côté, t'as une page, à l'époque, c'était MySpace, pour montrer ta musique sur Facebook, ce genre de choses. Et ça marchait très difficilement, pour être honnête. Et le jour où j'ai lancé une vidéo sur YouTube, alors moi, je suis arrivé au bon moment, hein. Je suis arrivé en 2011, c'était l'explosion de la YouTubification.
Yes.
Quand j'ai sorti un truc sur YouTube, explosion sa race. Tu vois, genre du jour au lendemain, j'ai fait 200 000 vues. Je fais, OK, bon, je vais faire ça maintenant. Parce que pour moi, c'était une plateforme sur laquelle je pouvais être écouté. J'avais des gens qui étaient réceptifs à mes créations. Et donc ensuite, j'ai remarqué que... D'ailleurs, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi dans la musique, c'est que faire de la musique... pour faire de la musique, bah, c'est génial. Mais faire de la musique aussi qui a un but sous-jacent, peut-être un peu au même titre que la musique de film a pour but de mettre en emphase une émotion ou une ambiance à un moment donné, et bah faire de la musique avec une idée derrière, que ce soit un concept, que ce soit s'approprier un univers, que ce soit... En fait, qu'il y a un but au-delà de la simple chanson, je trouvais ça vraiment intéressant. Ça répondait pas mal, pour moi, au vide de sens qu'était la musique, qui était juste faire des notes, et puis on sait pas pourquoi t'as choisi de faire ça à un moment. Là, il y avait un vrai but.
Ça, c'est passionnant parce que, d'ailleurs, Michel, tu as aussi parfois, dans cette approche-là de la musique, l'idée de graviter autour de concepts, de s'imposer des contraintes, de se donner des défis dans la musique. Pourquoi? Parce que c'est marrant ce que tu dis, la musique un peu vide de sens. Certains pourraient te dire, bah, tout simplement, c'est une manière de s'exprimer, on y met de soi, etc. Toi, tu vas plutôt avoir besoin d'un truc extérieur qui va déterminer ta pratique.
Enfin, c'est pas que j'en ai besoin, c'est que en fait, je trouve que ça donne de la lourdeur au message. En gros, comment dire? Oui, la musique, c'est un moyen d'expression, pourquoi pas, mais pas que. En fait, bien pour sûr. Moi, ça s'arrête pas là. Et pour moi, on peut utiliser la musique de la même manière qu'on utilise, par exemple, le cinéma pour exprimer parfois des avis politiques, pour exprimer des émotions, pour exprimer peut-être pour ouvrir à des concepts qui soient scientifiques, qui soient artistiques, qui soient philosophiques, qu'on peut s'en servir en utilisant les codes peut-être même intrinsèques à l'image et au cinéma, à la lumière, pour exprimer des choses. Eh ben, je pense qu'on peut faire pareil avec la musique. Et il ne s'agit pas juste de faire des chansons comme ça parce que j'ai envie de faire cette progression d'accord, je trouve que ça sonne bien, c'est cool. Très bien, il n'y a pas de souci, moi je trouve ça super aussi. Mais j'ai ce sentiment que j'aimerais qu'il y ait un peu plus. Moi, j'ai envie de faire un peu plus. J'ai envie que la musique, sans forcément porter un message, porte un concept, porte une idée, exprime quelque chose d'au-delà d'une simple succession de notes ou d'une simple émotion ou ambiance.
On va approfondir ça, mais j'aimerais d'abord l'avis de Michel. Ça te parle aussi, ça, cette démarche dont parle Thaï?
Non, moi, je me retrouve pas trop là-dedans. Moi, ouais. Je dis souvent que je vois beaucoup de musiciens autour de moi qui apprennent à faire de la musique pour faire de la musique. Et moi, je fais de la musique pour apprendre comment on fait de la musique parce que ce qui m'intéresse, c'est de comprendre, tu vois. Genre, c'est pour ça que genre les contraintes, je trouve ça intéressant, les défis, je trouve ça intéressant, tous ces trucs-là, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre, tu vois. Genre, comment je passe de rien, le silence, à une émotion chez quelqu'un ou un message qui a été reçu, ou, je sais pas, simplement à des gens qui dansent, ou, enfin, tu vois, je sais pas comment... Ce truc-là qui m'intéresse plus que moi m'exprimer, parce que si je veux m'exprimer, je peux parler, tu vois. Genre, il y a des gens pour qui... Mais c'est vrai, enfin, tu vois, genre, il y a des gens pour qui c'est compliqué, ça. Enfin, tu vois, genre, il y a beaucoup de musiciens, t'entends, ils disent, genre, quand je fais de la musique, j'ai vraiment l'impression que je m'exprime, alors qu'avec les mots, j'ai plus de mal, ou... Moi, j'ai pas ce souci-là, si j'ai des trucs à dire, je me sens totalement en possession de mes moyens en n'utilisant que ma bouche, tu vois. Mais, donc, j'ai pas cette velléité-là de m'exprimer. Juste, j'aime bien faire de la musique parce que je trouve ça intéressant, quoi. Je suis curieux, ça me tient concentré. Il n'y a pas beaucoup de choses qui me tiennent concentré. Donc, quand je suis devant mon PC en train de faire de la musique, je suis dans mon truc. Et en fait, je me fais vite chier aussi, tu vois. Enfin, ça revient un peu au même, mais genre, si je fais trop souvent le même truc, je me fais chier. Donc, si je fais trop le même style, si je fais, tu vois, genre, par exemple, faire un album entier dans un style particulier, ça pourrait être un défi, une contrainte en soi. Mais je le ferai pas juste pour moi ou sans me dire à la base je vais faire ça, juste parce que bah avant même d'avoir fini ma première track dans un style, j'ai envie de faire un autre style, tu vois. Donc
si je comprends bien, toi cette manière comme ça de à la fois de faire des trucs très divers, de s'imposer parfois des codes, des défis, etc., c'est une manière d'explorer l'univers musical, d'apprendre, d'en comprendre les arcanes, et ouais, surtout voilà. De maintenir ton intérêt aussi, ta curiosité, quoi.
Ouais, alors que c'est juste, je passe le temps d'une manière qui m'intéresse, quoi, tu vois.
Alors que Thaï, j'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, que toi, il y a plus presque un peu y a un côté, je sais pas, le geste artistique, enfin, tu vois, le côté, pas une pose, pas une posture, mais tu sais, l'idée de, on va creuser ce truc et on va en sortir quelque chose de grand, tu vois, entre guillemets, de certaine manière.
Ouais, complètement. Ouais. C'est quelque chose de très kantien, pour ceux qui aiment la philo. Mmh. Quelque chose de vraiment, le côté, repousser les limites. En fait, c'est un peu, alors j'ai vraiment pas envie d'avoir la prétention de quoi que ce soit, hein, mais l'idée, c'est plus que, je trouve que la musique et l'art de manière générale, c'est quelque chose, au même titre que pour moi la science, quelque chose d'élevant pour l'homme, pour l'humanité comme concept en tant que tel. Et je pense que de la même manière que les scientifiques essayent de comprendre notre univers, de faire des, voilà, de chercher, et même y a un aspect créatif à la science aussi, et ben l'art, c'est la manière aussi de repousser, on peut élever l'humanité avec l'art. Alors c'est dit avec des mots qui ont l'air en dire tu as sauvé le monde ou quoi.
C'est
pas
très
du
grandiloquent,
tout. Mais c'est un effort collectif. Quoi. C'est plus pour moi, il y a vraiment quelque chose d'évolutif. Il y a quelque chose où pour moi, clairement, la musique d'aujourd'hui, elle a beaucoup plus de richesse que la musique d'avant, simplement parce qu'on fait plus de choses, qu'on a découvert plus de choses, plus de techniques, plus de manières d'exprimer ça. Et pour moi, c'est une fin en soi que encore une fois, en même titre que la science ou la philosophie, d'essayer de repousser les limites de l'expression de l'humanité à travers la musique. Donc c'est pour ça que les défis et les endroits où personne n'a trop fouillé m'intéresse vachement.
Tu peux nous donner des exemples de choses que tu as fait ou que tu as envie de faire ou qui
complètement. Ouais. Bah, typiquement, les Thai Reflections, donc, qui sont la série de vidéos où je fais des défis musicaux, c'est typiquement ça. C'est-à-dire qu'en fait, je ne fais pas le défi... alors, évidemment, il y a un côté divertissement qui est présent parce que j'ai un public sur YouTube. Je souhaite aussi que ça soit intéressant à regarder. Mon but, c'est pas juste de faire mon truc dans mon coin, pour être honnête. Enfin, sinon, je serais pas sur Internet, concrètement. Donc, j'ai envie de partager ça. Donc, j'ai envie d'utiliser des termes et des choses qui intéresseront la plupart des gens, ou en tout cas, une certaine partie du public. Mais en même temps, le fond du truc, c'est quand même un défi, qu'il soit technique ou artistique. Et mon but, c'est toujours de faire une vraie chanson. C'est jamais de faire « Ah, tu veux faire une chanson à l'envers ?» Bah, j'ai fait une chanson à l'envers. Non, c'est faire une chanson à l'envers que t'aies envie d'écouter dans ton téléphone, que t'aies envie d'écouter tout en respectant vraiment l'intitulé du défi, quoi. Faire une chanson avec des sons à l'envers, bah, je prends n'importe quelle chanson et je la retourne, j'ai fini. Mais c'est pas le but. Le but, c'est de faire un truc qui sonne bien. Le but, c'est de faire un truc qui sonne agréable et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette contrainte de sonner à l'envers.
Donc, très concrètement, c'est quoi? Tu fais un morceau d'abord normal et ensuite, tu fais en sorte que si on le met à l'envers, on puisse quand même, que ça donne quand même une belle chanson, c'est ça, en gros?
Complètement. C'est exactement ça qu'on a fait. Mmh. Et d'ailleurs, c'est notre vidéo la plus connue aujourd'hui. Elle a 1 400 000 vues. On est hyper chanceux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a lancé la production de l'album à l'envers. Mmh. Puisque, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un potentiel artistique non exploité dans les sonorités à l'envers. C'est-à-dire que, bien sûr, on connaît des sons à l'envers, on a déjà
entendu... Oui, un petit effet reverse sur un sample et tout, on le fait beaucoup,
c'est
ça.
C'est ça, un sample reverse, un reverse de guitare, un reverse de piano pour faire une transition, on connaît. Mais alors, un morceau entier à l'envers, c'est... Alors, notamment les vocals à l'envers, parce que chanter des paroles à l'envers, ou alors vraiment le fait qu'à l'envers, bah, les transients, les attaques des sons, les percussivités, ça n'existe plus. C'est beaucoup de choses nouvelles. Et quand tu retournes un son, par exemple, moi, ce que j'ai fait dans ce défi, c'est que j'ai essayé de trouver des sons qui soient des crescendo, pour qu'à l'envers, ils sonnent comme des transients, comme des attaques. Mais ça reste fondamentalement différent d'une attaque dans la vraie vie. On n'a pas une attaque et une résonance. On a vraiment d'abord quelque chose de très complexe, puis tout d'un moment, ça s'arrête, c'est aspiré. C'est très étrange. C'est vraiment quelque chose de très peu exploré, à mon sens, aujourd'hui encore.
Tu auras un making-of de cet album, du coup?
Oui, complètement, puisque du coup, bah, on a eu la grande chance d'avoir été financé très rapidement. Mmh. Et dans les paliers, il y a un documentaire prévu. Et on va faire un making-of de 40 minutes sur cet album.
Là, tu as donné l'exemple, évidemment, des trucs à l'envers. Si tu as d'autres exemples aussi à nous donner?
Bah, en fait, dans les défis musicaux, on a fait beaucoup de trucs. On a fait, on a fait aussi des trucs qui étaient beaucoup plus axés fun, vraiment gros délire, parce que là, je vais pas mentir, hein, c'est aussi beaucoup pour l'audience, pour le côté attrait d'audience. Mais même si on a commencé beaucoup par là, je me suis éloigné petit à petit parce que je voulais vraiment plus des défis qui étaient plus artistiques.
Hein. C'est-à-dire que tu voulais plus des titres avec « Regardez ce que je fais comme son avec mes fesses ».
C'est ça, ouais, c'est ça. Mais ouais, tu rigoles, mais ouais, c'est ça. En fait, ouais. L'idée, c'est que moi, je trouvais ça marrant. Mais je me plaisais pas dans cette image de mec marrant. Parce que ça me représente pas super bien. Je suis pas que je sois un mec pas marrant, je pense. Enfin, si, je suis un mec pas marrant, mais.
Fou. Mais moi, ce que je voulais. Bon, t'es pas un humoriste, c'est pas ton métier, quoi.
C'est ça. Ce que je voulais faire, c'est de la musique pour la musique, beaucoup. Mmh. Et donc, du coup, il fallait que je constitue aussi une audience de gens qui s'intéressent, forcément sans s'intéresser à la. Alors, comment est fait la musique, bah, au moins s'intéresser à de la musique qui viendrait écouter en dehors du défi. En fait, c'était surtout ça le truc. Mmh. C'était que je voulais qu'ils passent un bon moment devant mes vidéos, mais je voulais aussi qu'ils écoutent la musique en dehors des vidéos. Et du coup, c'est là où j'ai fait beaucoup de défis plus artistiques, où le but, c'était vraiment de créer une chanson qui ensuite se retrouvait sur Spotify, sur Deezer, sur iTunes, et qui pouvait écouter. Et ça fonctionne, j'ai la grande chance que ce soit le cas. Et on a fait donc la chanson à l'envers, qui est la plus connue, mais on a aussi fait... par exemple, deux chansons différentes qui s'écoutent en même temps, on les met en simultané. On a fait, comme j'ai composé un morceau sans pouvoir l'écouter, comme Beethoven, en étant complètement sourd. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai fait une chanson à base de commentaires négatifs, mais j'ai essayé de faire une vraie chanson, pas quelque chose de parodique forcément, tu vois. Beaucoup de défis de ce genre, qui ont été assez populaires. Et à côté de ça... dans mes albums perso, donc par exemple avec mon groupe Starry Sky, donc c'est vraiment typiquement on a fait un album concept qui s'appelle Start, qui raconte une seule histoire. Et du coup, vraiment mon but c'est de repousser plus loin le côté album concept qui emprunte un peu des côtés un peu progressifs avec des structures plus complexes pour qu'elles soient narratives, avec des thèmes qui reviennent tout le long de l'album pour servir l'histoire, avec ce genre de choses, avec des arrangements très différents. Et mon but, d'ailleurs j'ai été qualifié de prog 2.0 par un magazine de prog, je crois à un moment, mais l'idée c'est ça, c'est finalement d'essayer, parce que la musique prog, avant d'être un style de musique, ça se voulait juste être progressiste, c'est-à-dire une musique qui vise le progrès, qui vise intégrer des concepts novateurs, qui vise presque... En fait, ça fait prétentieux, mais qui vise l'intelligence, quoi, qui vise la complexité. Parce que moi, je trouve que j'aime beaucoup les choses simples. Il y a plein de choses simples que j'adore, mais on fait souvent beaucoup l'éloge des choses simples. Et pourquoi pas ? C'est très, très bien. J'ai absolument rien contre. Mais je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses simples, là où on fait beaucoup moins souvent l'éloge de la complexité. Parce que la complexité, soit ça effraie les gens, soit c'est « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que c'est un télo, là ? C'est bon, là, c'est pas tranquille, tu vois. » Moi, je trouve que faire des choses complexes, ça a aussi beaucoup de mérite. Et potentiellement, c'est aussi par là qu'on fait avancer les choses, qu'on découvre des nouvelles choses.
C'est marrant parce que... Je t'interromps peut-être, non, tu voulais...
Vas-y, non, 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 complètement.
Ça me parle, tout ce que tu racontes. Je suis d'accord que parfois aussi, il faut de la place pour tout. Moi, j'adore aussi la musique extrêmement populaire, extrêmement simple.
Oui,
même la musique pas très bonne, parfois, je l'aime bien, tu vois. Mais, et je trouve aussi que c'est important de rappeler parfois la valeur, pourquoi pas, d'une musique plus complexe, plus intello, entre guillemets. Et en même temps, dans ta musique, dont j'ai écouté une partie de ta production, je trouve qu'il y avait presque un peu un décalage entre l'aspect très, justement, les codes très enfantins de l'animé, etc., et la philosophie, d'une certaine manière, dont tu nous parles. Et à la fois, ton discours me séduit, en même temps, je ne le retrouve pas toujours dans ta musique, d'une certaine manière, si je peux me permettre.
Probablement, parce que c'est peut-être quelque chose que seul le créateur voit son propre truc dans son œuvre, tu vois, limite. C'est très difficile, en tant qu'auditeur externe, de se dire « Ah bah oui, machin, tu vois. » Après... Je ne sais pas dans quelle mesure tu as approfondi.
Pas assez, certainement. Ouais.
Typiquement, c'est vrai que. On ne va pas se mentir aussi. Les trucs de surface sont rarement les trucs les plus connus, ou ceux qui sont en surface ne sont peut-être pas forcément les choses les plus denses, même si j'essaye quand même d'importer cet esprit-là. Typiquement, par exemple, j'ai fait une chanson pour un YouTuber qui a passé le million d'abonnés qui s'appelle Sora. On a fait une chanson pour lui parce qu'il m'a dit « Ouais, je veux trop faire une chanson, est-ce que tu peux en faire une sur moi ?» Donc on a fait un truc qui était carrément dans un délire animé. Mais du coup, mon but, c'était quand même de faire non seulement une bonne chanson que les gens pouvaient écouter en dehors du délire, mais on retrouve ce côté... Naturellement, moi, ça va avec le côté animé, mais on retrouve la complexité harmonique, on retrouve la structure à base de refrains, de couplets, pré-refrains, refrains, bridge, avec pas mal de richesses de ce côté-là. Donc, c'est moins poussé, peut-être, que quelque chose comme la chanson à l'envers ou comme l'album concept, qui, forcément, sont des terrains plus propices à de l'expérimentation et à quelque chose de plus dense. Mais j'essaye tant que possible de concilier quelque chose de plutôt accessible et quelque chose de plus dense. Voilà. C'est important pour moi aussi d'être accessible. C'est clair que si je voulais faire juste de l'expérimentation, je serais parti dans un délire expérimental avec des trucs ultra complexes. Mais
tu
j'aime
le ferais
aussi
probablement
la musique.
Dans ton coin, quoi.
Mais, oui, mais c'est même pas seulement cet aspect-là qui m'attriste, parce que c'est pas très grave, ça, à la rigueur. C'est plus que j'apprécie aussi vachement le côté accessible des choses. Moi, comme... Enfin, je vais pas me prendre pour le mec trop intelligent. Non, clairement. J'aime aussi beaucoup la pop. J'aime aussi beaucoup... ça me touche à une échelle émotionnelle aussi. C'est pas que du mental, la musique telle que je l'aperçois. Donc forcément, mon but, c'est de concilier les deux autant que possible. Parce qu'il y a de la musique qui parle à mon mental, il y a de la musique qui parle plus à mon côté instinctif et émotionnel. Bah, mon but, c'est de regrouper les deux dans ma musique, vu que, par définition, j'essaye de créer la musique que j'aimerais qu'elle existe. C'est pas français, putain. En gros, moi, je me suis souvent lancé dans la musique en mode... Putain, je voudrais un morceau qui soit comme ça, mais ça n'existe pas. Ou en tout cas, je ne le connais pas. Ben, je vais le faire. Et c'est ça ma démarche, finalement.
Oui, il y a un autre point dans la continuité un peu là de notre discussion qui m'a étonné dans ton parcours, parce que j'ai l'impression que c'est un truc qui est rare chez les musiciens qui viennent vraiment du milieu très YouTube quand même à la base. C'est cette conversion vers le live et de se retrouver quand même sur scène avec des icônes autour de soi. Et d'ailleurs, de manière générale, c'est... Bon, déjà, là, on est dans une situation terrible pour le monde du spectacle en ce moment, donc ça accentue encore ça. Mais si on se met en dehors de ça, même si je sais que c'est difficile pour beaucoup de gens certainement qui nous écoutent, avant même cette situation, on est dans un rapport à la musique quand même qui change, qui est plus individuel. Home studio a beaucoup changé quand même le rapport qu'on a à la musique. On en a parlé dans plusieurs épisodes auparavant. Et toi, par contre, tu as fait cette démarche de t'entourer, d'avoir un groupe avec un nom et surtout de dire, on va essayer de tourner quand même. Pourquoi ? Parce que t'avais cette culture du live un peu déjà, c'est ça ?
Comme je t'ai dit, j'ai démarré beaucoup par ça, parce que je faisais les bars, je faisais les bars-concerts, les cafés-concerts, les trucs comme ça quand j'étais ado. J'ai rejoint beaucoup de groupes, à la base souvent au poste de batteur. Où j'étais, j'ai tourné dans les bars, j'ai fait les tremplins, j'ai fait tout ce genre de trucs. Et en fait, comme on avait une influence japonisante et tout ça, on s'est rendu compte que ça passait, pourquoi pas mal dans les salons à la thématique japonaise, en fait. Et c'est comme ça qu'on a commencé à démarcher les salons. Pour eux, c'était super. C'était une manière d'avoir un spectacle, d'avoir un show dans leur salon. Et pour nous, c'était s'adresser à un public qui s'intéresse à la musique japonaise et aux influences de musique japonaise. Et finalement, on a fait notre trou là-dedans, et c'est ça qui est assez... c'est vrai que c'est assez insolite, parce que je pense qu'actuellement, on est un des seuls groupes de compo en France à être programmé dans toutes les conventions sur les scènes principales. Donc on a fait Japan Expo 7 fois, on a fait Paris Manga au moins 12 fois, on a fait TGS, Polymanga, Made in Asia, tous les salons à thématique japonaise qui recueillent des dizaines, voire des centaines de milliers de visiteurs. On est programmé là-bas, on a la grande chance d'être programmé là-bas. Et il y a d'autres groupes qui sont programmés là-bas, mais dans 90% des cas, c'est des groupes de reprise, puisque c'est des groupes qui vont reprendre les musiques connues d'anime, les musiques connues de jeux vidéo, les musiques connues de films, ce qui est très bien. Moi, je trouve qu'ils font un super taf. Il y en a en plus qui font des réarrangements, donc c'est vraiment très créatif. Et c'est vrai que nous, on a ce statut particulier de faire de la compo et de se dire, mais comment est-ce que ça peut passer de mettre un groupe qui fait des trucs originaux là-dedans? Simplement parce que déjà, on a cette esthétique, même au niveau visuel et au niveau de notre communication, qui est carrément dans cette mouvance web culture, pop culture, animé, etc., jeux vidéo, etc. Mais aussi parce que... comme on a fait aussi beaucoup de chansons qui s'inspirent et qu'on continue à faire, qui s'inspirent d'univers. Par exemple, on a une série qui s'appelle Jam Fiction, dans laquelle on prend un personnage de pop culture et on lui fait une chanson, un peu comme les Disney feraient leur chanson Disney pour leur personnage. Sauf que nous, on va prendre Bozette, on va prendre Spider-Man, on va prendre Détective Pikachu, on va prendre, des personnages de la pop culture qui n'ont pas de chanson. Justement, c'est là notre intérêt aussi. C'est toujours cette démarche, tu vois, créer un truc qui n'existe pas encore. C'est-à-dire prendre un truc, et le transposer ailleurs. Et ça passe très bien en convention. Du coup, même si ce sont des originales, on a cette encre dans le monde de la pop culture. Et de toute façon, de manière générale, nos chansons, de par leur influence japonisante, collent bien
C'est une petite visite.
Ah, c'est mon chat. De par, du coup, nos influences japonisantes, forcément, l'esthétique colle bien. Parce qu'il faut savoir que dans les conventions, les autres groupes de compo qui passent, souvent, c'est des groupes japonais, en fait, finalement. Puisqu'on importe des japonais. Et nous, on est là, on est français. Alors, certes, on a des membres du groupe qui ont des origines japonaises très claires, mais on n'est pas japonais, quoi. On reste franco-belge, finalement. Donc, du coup, ça passe bien en convention. On a vraiment fait notre terrain là-dedans et c'est assez peu commun, ouais.
Michel.
C'est aussi le côté YouTubing aussi. Pardon, excuse-moi. Le côté YouTubing, puisqu'en fait, en étant populaire sur YouTube, les YouTubeurs étant très souvent très invités pendant dans tout ce qui est convention, nous, ça nous fait une double casquette qui est puissante pour les organisateurs.
C'est un méga bon plan. C'est vraiment ça. Sur les deux tableaux en même temps.
Exactement.
T'allais dire, Salman.
Non, j'allais t'interroger. Alors, je connais déjà un peu la réponse, parce qu'on a déjà parlé en dehors de l'émission, mais toi, la question tu vois, du live, est-ce qu'elle s'est déjà posée? Pareil, de faire cette transition un peu. Est-ce que t'as déjà fait des conventions, d'ailleurs, que ce soit pour la musique ou en tant que YouTuber? Est-ce que tu connais un peu cet univers?
Quand j'étais petit, ouais, je vois bien l'univers. Je me sens moins à l'aise là-dedans maintenant, tu vois. Genre, je sais pas, c'est une vibe... À force, je suis devenu aussi plus solitaire, tu vois. Genre, je fais ma musique dans mon coin, les collabs, je les fais. Là, en ce moment, je commence les collabs avec les abonnés parce que je sens qu'il faut que justement, je commence plus à communiquer, à reprendre le truc de collaborer, de faire des trucs à plusieurs et tout. Mais sinon, de base, ce genre de truc, les concerts, de manière générale, ça me parle pas trop, que ce soit en tant que spectateur ou aller les faire et tout. Genre, moi, je suis plus un type du stud et des écouteurs et de, tu vois. Genre, je conçois l'intérêt hein, pour beaucoup de gens, tu vois, d'aller voir des concerts ou de faire des concerts et tout. Moi, c'est juste pas ma cam, tu vois. À chaque fois que j'y vais, je vais me poser près de l'ingé son et je suis comme ça. Et j'écoute. Et des fois, je bouge la tête. Et voilà, tu vois. Genre, j'arrive pas à rentrer dans le délire. Donc, voilà. Que ce soit
c'est carrément le concert, le concept de concert qui te séduit pas.
Ouais, non, c'est ça. En fait, je sais pas, ouais, après, je vais voir des concerts quand même régulièrement, tu vois. J'ai été voir One Ok Rock, justement, qui sont aussi dans ce vibe un peu là, tu vois. J'ai été voir Paramore, j'ai été voir Tesseract. Mais à chaque fois, je sais pas, tu sais, je bois quand même une bière, je passe un bon moment, tu vois. Mais c'est pas une expérience musicale ou une expérience incroyable, tu vois, genre je vis des trucs plus intenses avec mes écouteurs, tu vois.
Et même pour un aspect plus club, tu vois, par exemple, pour aller danser ou en soirée ou en groupe, tu vois. Alors, un autre aspect de la musique live, tu vois, avec un mec qui va mixer ou un truc comme ça, en live comme ça, plus club.
J'en ai déjà fait aussi, par exemple, tu vois, quand j'étais plus jeune.
Mais c'est pas ton truc.
À l'ancienne et tout. J'ai kiffé, hein. Franchement, je me suis donné. Hein. J'ai dansé comme un fifou. Mais là, maintenant, en ce moment, non, tu vois. Je suis plus dans une vibe où je produis, je fais du son. Et j'apprends. Et puis là, en plus, ben, je suis au stade où mon indépendance financière se joue, quoi. Tu vois, là, j'en vis, ça va. Mais il faut sécuriser, tu vois. Et donc, là aussi, je suis plus dans ce truc où je travaille énormément, tu vois. Donc, voilà.
C'est marrant, mais ça c'est extrêmement individuel, propre à chacun. Mais pour moi, le live c'est presque l'aboutissement du studio ou de, enfin, c'est il y a un plaisir dans le studio aussi, c'est complètement différent. Et puis de toute façon, j'ai pas de carrière artistique, je sors pas des productions comme vous, etc. Mais je le vois bien juste dans le pur plaisir que me procurent les gens. Mes plus grands kiffs, c'est quand je me retrouve dans une salle de répète ou même un petit truc de concert. Et d'être avec les autres, et de voir les réactions, et le son qui balance, tu vois, le gros ampli. Et c'est là où je prends un plaisir absolu, quoi. C'est ce qui me fait le plus kiffer, limite, dans la musique.
Je comprends, mais ouais, je pense que c'est vraiment un truc qui est propre à chacun. Et je suis un peu dans le délire plus beatmaker, hein, ou compositeur papier, tu vois. Genre, tu fais des trucs et après c'est d'autres personnes qui vont le jouer ou c'est d'autres, enfin tu vois, genre c'est, après je pense un compositeur classique, il écrit son truc, après il vient, il fait chef d'orchestre, ça me chaufferait, tu vois. mais ça me... en fait j'aime bien l'idée aussi de passer d'un truc qui n'existe pas à un truc qui existe, donc il y a ce côté là ça se transcrit aussi dans le compositeur papier qui après va faire jouer ça à un orchestre ou à un groupe de manière générale, tu vois. Mais genre moi justement, pour moi les répètes c'est un enfer, tu vois. Déjà, j'arrive toujours à la bourre moi-même, mais quand c'est pas moi, c'est un autre. Et donc, tu loues la salle, t'arrives, tu la loues pour 2 heures, t'as un quart d'heure pour l'exploiter. puis je sais pas, ouais, c'est genre il y a très peu de conflits au final, hein. J'ai eu des groupes et tout ça, il y a pas vraiment de conflits, mais juste il y a une impatience chez moi qui me force un peu à travailler tout seul, tu vois. Genre moi j'aime bien quand ça va vite et que je dois pas attendre. Je t'envoie la compo et tout, je dois pas attendre une semaine pour que tu m'envoies le truc, sinon le truc il est déjà parti, tu vois. Donc
C'est super intéressant ce que tu dis là. Fini, tu vois. Parce que moi, je comprends complètement le sentiment que tu as. Et j'ai fait des groupes comme tu décris. Mais aujourd'hui, par exemple, avec Starisky, on n'a pas du tout cette dynamique-là. Moi, j'ai engagé des bêtes. En fait, le but, c'était de prendre des monstres bien plus forts que moi. Et en gros, on en est à un stade où on répète une fois. Alors là, il n'y a plus de concert, mais quand on avait... je sais pas, on faisait quoi, une cinquantaine de concerts par an, on répétait une seule fois dans l'année. Et ça prenait deux jours dans l'année. Parce qu'en fait, je leur ai filé tous les morceaux et ils se débrouillent et ils l'ont par cœur. Et quand on répète, c'est limite que de la mise en scène, tu vois, que du spectacle.
Ouais.
Mais pas de la musique. Parce que la musique, elle est déjà en place.
Avec un groupe comme ça, je serais plus chaud déjà, tu vois. Mais c'est clair que c'est compliqué, hein. Tout le monde.
Ça reste
pas...
des humains à gérer.
C'est ça. Mais tout le monde n'est pas aussi motivé que toi. Ça dépend du projet, ça dépend de plein de trucs. C'est une somme de sensibilité de.
Bien sûr.
De plein
sûr,
de personnes, tu vois. Donc, voilà, moi, il y a des projets où moi j'étais le traîne la patte et il y a des projets où moi j'étais le dictateur qui criait sur les gens et qui leur disait tu fais pas ci, tu fais pas ça, tu fais pas ci, tu fais pas ça.
J'ai fait les deux, moi aussi.
Donc. C'est juste, ouais, après, je te dis, là, en ce moment, avec les collabonnés et tout, je fais des collabs avec les abonnés, je leur demande des multitracks et j'essaye de trouver un compromis dans ce truc-là, tu vois. Mais la question de la scène, là, ne se pose pas. Mmh. Puis bon, évidemment, la Covid, en plus, tu vois.
Oui, voilà, bon, là, ça se pose pas maintenant, mais je vois.
Mais il y a des gens qui trouvent des alternatives, hein. On peut potentiellement parler de ce truc-là. J'ai vu les K-popers qui font des concerts en live, genre vraiment produits comme des putains de concerts et tout, destination d'Internet, quoi.
C'était sûr que, de toute façon, après, avec la crise du Covid, les artistes allaient se diriger vers le concert en stream, hein. C'était plutôt évident.
J'ai vu, c'était BTS, donc BTS, enfin le plus gros groupe de K-pop, qui avait fait comme ça un concert en live via Internet. Il n'y avait personne réellement dans la salle, c'était diffusé. Mm-hmm. Et en fait, les gens pouvaient payer leur billet à l'avance comme un véritable concert.
Ouais,
et en plus, c'était pas donné, hein, donc c'était pas un concert gratuit. Et je crois que c'était même plus de 20 $, un truc dans le genre, la place pour ce billet, pour ce concert virtuel, d'une certaine manière. Et il a été d'une rentabilité. J'avais lu le chiffre de l'argent que ça avait généré, et même par rapport au coût ensuite du concert, c'était phénoménal. Je pense qu'aucun concert jusque-là n'avait ramené autant d'argent. C'était complètement fou, complètement fou.
Mais que BTS aussi, c'est un niveau stratosphérique. Hein. C'est pas commun.
bien sûr. Non, on peut pas appliquer le modèle à tout le monde, mais c'est. En tout cas, d'un point de vue purement économique, absolument hallucinant ce qu'ils avaient fait là avec ce concert en live comme ça.
Ah ben ouais, c'est des Twitchers, ça.
C'est complètement fou. Le public, la scène, enfin, c'est différent de faire un concert dans une convention, tu vois, dans un salon. Comment ça se passe?
Est-ce que la prépa... ça, finalement.
Ouais.
Alors oui, il y a des différences. Ça dépend beaucoup. Des conventions, puisque ça dépend... Il y a des conventions, par exemple, qui ont une scène concert, c'est un hall entier et qui est dédié juste à une scène dans le but de faire des concerts, de faire des conférences, de faire des spectacles, de cosplay, notamment le cosplay, c'est très populaire en convention. Donc, c'est pensé comme des trucs de show. Donc, c'est prévu, c'est dans le noir, tu as des éclairages, tu as des techniciens, tu as tout ce qu'il faut. Là, c'est strictement similaire à une scène de concert. Bien évidemment, tu as d'autres, plus, souvent les plus petites, où c'est vraiment une scène dans le hall et puis il y a les animations dessus, quoi. Ça dépend des ambitions de chacun. C'est différent. Je pense que nous, si on trouve ça pas si différent que ça, c'est parce qu'en fait, on a la chance d'avoir un public qui est présent de base et qui vient en convention. Comment dire ? Nous, comme je t'ai dit, on a fait les conventions parce que ça marchait bien pour nous à la base. Mais ensuite, c'est posé la question de comment s'exporter hors des conventions. Et alors bon, elle a été annulée à cause du coronavirus, mais on avait démarré une tournée en avril, qui aurait dû avoir lieu en avril, justement pour tous ces gens qui viennent. En fait, parce qu'on a remarqué deux choses. La première, c'est qu'on avait presque une vingtaine, trentaine de personnes qui faisaient toutes les conventions de France juste pour venir nous voir. C'est-à-dire qu'ils venaient voir le concert et après, ils faisaient rien. Ils ne faisaient rien de la journée, concrètement. Ils étaient venus pour ça. Ils ont payé le billet de la convention que pour ça. C'est cool. D'un autre côté, quand on avait fait un concert dans un bar, ben, la moitié des gens qui étaient venus, ils ne viennent pas en convention. Ils ne sont jamais venus. Ils disent, mais moi, je suis venu, je voulais voir votre concert. Mais les conventions, ça ne m'intéresse pas. On a fait, mais putain, mais du coup, il y a un public pour ça. Et du coup, on avait démarré la tournée qui était en bonne voie jusqu'à l'annulation à cause de tout le bordel.
Ouais.
Mais du coup, c'est peut-être pour ça qu'on a pas ressenti, que je ne ressens pas vraiment de différence fondamentale à travers la relation au public. C'est parce qu'en fait, on a notre public. On a cette chance-là. Et que de toute façon, quel que soit l'endroit dans lequel on joue en concert, il est là, il y a cette proximité, il y a le fait qu'ils connaissent. Déjà, rien que le fait de jouer devant des gens qui connaissent tes chansons, pour moi, ça change tout, en fait. C'est complètement différent de s'adresser à un public dans le but de le séduire et de s'adresser à un public qui est déjà là pour te voir. Ça n'a rien à voir. Voilà.
Et en termes d'accueil, d'organisation, de sonorisation même des scènes, etc. Est-ce que c'est pas forcément... Je ne sais pas s'ils ont l'habitude vraiment de recevoir des groupes de musique ou pas. Est-ce que c'est
très variable selon les conventions. Ouais. C'est très variable. T'as, autant t'en as ces schlaghetto de ouf et t'en as ces pro, quoi, vraiment. Ouais, c'est vraiment cas par cas, là, pour le coup.
Ok.
J'imagine que ça dépend aussi du standing des artistes japonais qui ramènent. Genre.
Eh ben, pas toujours.
C'est vrai? Genre, ils peuvent ramener potentiellement genre, des gros noms japonais et puis après, quand même, faire une scène à la Branquignole. Ça arrive, ça?
Ça arrive, oui. Ça arrive. Après.
Non.
Hein?
Non, pas des noms.
Mais après, oui, après, ça dépend à quelle taille t'imagines. Mais déjà, les groupes japonais qui ont un public monstrueux, ils n'ont pas besoin des conventions pour se produire.
Ah oui, non,
donc,
c'est sûr.
Du coup, c'est très peu commun qu'ils viennent en convention pour se produire. La seule exception étant Japan Expo, mais parce que Japan Expo, elle est loin devant tout le monde.
Ouais.
Pour toutes les autres conventions, en général, les groupes japonais qui se produisent sont des groupes qui sont soit petits, soit moyens en termes d'envergure, en termes d'audience et de communauté.
Ouais.
Et à ce moment-là, bah forcément, en plus, en général, quand ils viennent du Japon pour jouer, c'est pas pour faire un concert. Donc, en général, ils font une tournée de conventions, si tu veux.
Ouais.
Et
ouais,
du coup,
ouais,
c'est très variable. Autant tu as des conventions où ça va être pro et pris en charge du début, tu as 20 techniciens, 20 backliners qui changent le plateau et tout est pro. Autant tu en as certaines où tu dois te démerder tout seul parce qu'il n'y a personne, en fait.
Et c'est qui les noms à la mode en ce moment en convention?
Les Japonais
que... Ouais.
Franchement, je sais pas, mais au moment, en 2019, ce qui était... Mais après, je pense pas que ce soit une question de popularité du public français, en fait. C'est pas le public français qui fait que les groupes japonais viennent en France. C'est les tourneurs. T'as des tourneurs européens qui font venir des groupes japonais et qui les vendent en convention parce que c'est des japonais et que tu fais une convention qui s'appelle Japan quelque chose... Bah, il te faut des japonais, donc ça a une valeur ajoutée, tu vois. Même si personne ne les connaît, finalement.
Ouais.
Après, en général, ils sont bons.
Les gars, je pense qu'on va pouvoir conclure cette émission. Déjà, merci beaucoup, Tai, d'être venu. Et en plus, je suis très content parce qu'on en parlait juste avant, hors émission. Mais je me dis qu'en fait, toi, j'ai écouté en partie ta musique. Je suis pas le premier client forcément, tu vois. Je te parlais un peu de mon rapport au générique d'animé, etc. À la musique japonaise, je m'en suis un peu éloigné avec le temps, si j'ai cette sensibilité à la base. Mais j'étais persuadé par contre qu'il y avait plein de choses intéressantes autour de votre production, autour de ce que tu fais, de ta vision de la musique, etc. Et je trouve que ça démontre vraiment que il faut jamais s'arrêter uniquement à la musique en tant que telle, qu'il y a des démarches toujours intéressantes, qu'il faut s'ouvrir, qu'il faut... c'est vraiment, je pense, dans cette émission, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est d'inviter plein de gens très différents, de découvrir plein de choses, et qu'il y a plein de gens passionnants dans absolument tous les domaines musicaux, si c'est pas ceux qui nous touchent le plus à la base, quoi.
Donc, moi, quand je t'ai ramené Tai, moi, je t'ai dit, pour moi, genre, dans la partie émergée du YouTube musical, il n'y a pas plus chaud en termes d'écriture, tu vois. Tu tiens la dragée haute, comme on disait au 19e siècle.
Je suis vraiment ravi, ça me fait vraiment plaisir, surtout venant de quelqu'un qui gère.
Oh, bah, merci, ça fait plaisir également.
Qui perce dans le piano game sur Spotify.
Allez, comme jamais.
Et sur Twitch, surtout maintenant aussi, là, c'est sur la nouvelle.
Twitch, ouais.
D'ailleurs,
abonnez-vous à ma chaîne Twitch.
Vous êtes chaud, Twitch.
Petit tour rapide. Pour toi, Tai, avec Starry Sky, en ce moment, il y a un crowdfunding. Parle-nous-en très rapidement.
Ouais, très rapidement, bah, du coup, on a parlé de la chanson à l'envers et on a parlé de notre album Concept Start. Tout simplement, c'est les deux fusionnés, c'est-à-dire que c'est l'album à l'envers qui est aussi la suite de l'histoire abordée dans Start. Pour l'instant, on fait une campagne qui est sur Ulule et qui a explosé dès le début. C'est incroyable, je ne m'attendais pas à ça. Et voilà, c'est en ce moment et ce sera jusqu'au 20 novembre, je crois, maximum. Voilà.
Ok. Bah, l'émission sera déjà sortie d'ici là. Donc, allez jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Donc, Starry Sky qui sort un nouvel album et qui y a un financement participatif en moment. Michel, toi, donc on le disait, c'est quoi ta plus grosse actu en ce moment pour toi? C'est le Twitch Game?
Ah ouais, c'est le Twitch Game, ça c'est sûr. Bah, c'est surtout le fait que je déménage, en fait. et donc, je déménage dans un petit appart où je serai solo avec mon nouveau très bel MSI qui va me permettre de taper des streams. Je dois encore recommander du matos chez mon site de musique préférée, Thoman.
S-Ottoman.
Carte son, S-Ottoman. Je dois me racheter un petit micro, je dois me racheter quelques trucs. Mais à partir de là, ouais, je pense que je ferai 2 streams par semaine.
Tu veux pas nous faire une petite session de brainstorming de tes tweets?
ça ressemblait un peu à ça, le dernier live écoute de prod.
Les secrets derrière les tweets.
Je commentais en direct les tweets sur les prods que les gens m'envoyaient, tu vois. Donc ça ressemblait un petit peu à ça quand même. Mais là, je suis juste frappé par un éclair de génie régulièrement. Il faut que ça sorte directement.
Il y a Dieu qui rentre dans ton corps.
De l'univers à mon téléphone instantanément, tu vois. Donc il n'y a pas vraiment de réflexion. Ça me tombe dessus comme ça vous tombe dessus. Je suis le messager.
Wow.
Ok, bah très cool. Donc la chaîne Twitch, Chronomusic.
Et Spotify, YouTube, tout ça. Je suis partout.
Vous connaissez.
Chronomusic.
Yes. Mais vraiment, tu vois, j'espère bien te. Je pense peut-être. D'ici janvier, tu vois, je pense que je me mettrai un peu au live là, avec la commu, on discutera. Non, mais tu vois, c'est penser à un poil de concept un peu cool et tout. Et puis, il faut que j'ai un peu plus de matos aussi. Je fonctionne avec un ordinateur qui envoie pas énormément. J'ai peur que ça lui fasse un peu péter un câble.
Ah oui.
Parce que t'as pas la meilleure marque.
Ouais. Non, j'ai pas MSI. J'ai jamais eu moyen de gratter aussi. Non, en plus, c'est pas.
Un PC de Salman en TT.
C'est ça, c'est ça. Non, je suis pas du tout un influenceur, malheureusement. J'ai pas la communauté qui me permettra ça. Mais à l'inverse, on a Thoman avec nous, notre petit partenaire, qu'on remercie d'ailleurs parce qu'on a fait un concours récemment. Si vous suivez la chaîne Monte le son, allez jeter un œil. Bon, il se termine. Bon, là, on enregistre jeudi, c'était mercredi. Il se termine dans 2 jours. Peut-être que vous l'aurez pas vu d'ici là. Mais en tout cas, on offrait du matos. Justement, c'est pour ça que c'est cool d'avoir un partenaire comme ça. C'est qu'on peut aussi, de temps en temps, faire des petites actions sympas et vous remercier de nous suivre. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous connaissez le discours, il y a régulièrement des nouvelles vidéos, toujours de plus en plus intéressantes, on essaie vraiment de faire les trucs les plus cool possible. Ce podcast est aussi en version audio, si jamais vous l'avez découvert à travers YouTube, n'hésitez pas, ça dure un peu de temps, vous voulez pas rester 1h20 devant YouTube, vous le mettez sur votre téléphone pour aller au boulot, par petites parties, etc. Écoutez, c'est dispo sur toutes les plateformes voilà, de streaming. Et puis, et bah voilà, je crois qu'on a fait le petit tour, on revient dans un mois.
On a fait semblant de parler pendant... Non, c'était très bien.
Non, c'était passionnant. Moi, j'ai bien aimé cette émission. J'aime toutes les émissions, ouais. Mais parce qu'on a des invités cool à chaque fois. Et puis, dans un mois, on revient. Ravi. Là, on est. Alors, Michel, je vais teaser, mais sans vraiment. Mais on a lancé du lourd. En invitation, là, il y a du gros. En espérant que ça se concrétise, mais on a bon espoir.
Moi, je tire toutes les ficelles.
On est là. Non, mais on est partout comme ça. On essaie.
Exactement. Mais merci encore à toi, Thaï, d'être venu. Ça m'a
merci,
fait merci beaucoup. Vraiment, vraiment un plaisir.
On se capte sur les réseaux sociaux.
Yes.
Ça marche.
Et puis, à dans un mois, tout le monde. Bye bye.
Salut, les amis.
Ciao.